France Inter. Leur philo. Bienvenue dans Leur philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des musiques, Arnaud Caillé à la console. Au programme de l'émission, une nouvelle masterclass en compagnie des élèves de Terminale 3 du nouveau lycée de Vincennes. Mais au fait, on est philosophe du verbe naître ou on le devient? Réponse avec Paul Ricoeur.
Leur philo. Patricia Martin sur France Inter.
On le devient, car cela dépend de rencontres fondamentales dans la vie. Moi, j'aime assez dire que c'est mon professeur de philosophie au lycée de Rennes qui m'a contraint. Il m'a contraint de la façon suivante, en me disant « Ricoeur, quand il y a un obstacle, quand il y a une contradiction, il ne faut pas la contourner, il faut l'affronter. » Et je dois dire que j'ai essayé de fuir la philosophie en faisant des lettres, et je n'y ai pas réussi. Et j'ai donc été ramené à l'injonction de Roland Delbiez, mon professeur de philosophie du lycée de Rennes.
Mais pourquoi cette tentation de la fuite? C'est dangereux, la philosophie?
Oui, c'est dangereux.
Autour de moi, 34 élèves qui vont passer donc le bac philo au printemps prochain. On a hâte de les entendre. Ils sont accompagnés de leur professeur de philosophie, Jean-Victor Gresset, que je salue, ainsi que de la philosophe Céline Spector. Un professeur de philosophie peut faire basculer votre destin. Ce fut le cas donc pour Paul Ricoeur. Jean-Victor Gresset, vous avez le souvenir, vous, de votre prof de philo, votre premier prof de philo?
Oui, j'ai souvenir de mon premier professeur de philosophie en terminale. À Compiègne, Guillaume Ferré.
Ah, vous vous souvenez de son nom? En général, c'est un bon signe.
Et qui était un jeune professeur et qui, en effet, avait été spécialiste de Spinoza. Et je me rappelle qu'il nous parlait beaucoup de Spinoza pendant toute l'année. Nous, on se demandait, mais alors, le programme, comment est-ce qu'on va le terminer, etc. Et finalement, je me suis rendu compte, à la fin de l'année, qu'il nous avait sans doute beaucoup plus appris en nous faisant entrer dans la pensée de Spinoza pendant cette année-là, qu'en nous faisant parcourir l'ensemble de l'histoire de la philosophie de manière brève.
Céline Spector, vous êtes professeure des universités à l'UFR de philosophie de la Sorbonne, vous êtes spécialiste de philosophie politique, spécialiste aussi des Lumières et des questions de démocratie européenne. Montesquieu, Rousseau n'ont aucun secret pour vous, ça tombe bien, puisque le sujet du bac philo que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la liberté. Il va être question notamment de Rousseau. Comment est-ce qu'on peut aborder ce thème-là en 2025?
Alors, il me semble qu'il y a une exigence fondamentale liée à la philosophie, qui est de se guérir de ses illusions. Et la philosophie sert beaucoup à apprendre à être libre, à devenir libre, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Et dans notre monde, comme dans tout autre monde, qui peut être chaotique, qui peut être menaçant, qui peut être... Et donc, je pense que vocation à se guérir de ses illusions, à combattre les préjugés, à revenir sur ses propres croyances, à se donner une nouvelle liberté de penser à l'aune d'un savoir critique, eh bien, c'est quelque chose de très précieux. Et c'est cela, j'espère, que la philosophie peut nous apporter.
C'est peut-être pour ces raisons-là que Paul Ricoeur dit que c'est dangereux, la philosophie, non ?
Alors, je suis pas sûre que ce soit fondamentalement dangereux, parce que je pense la philosophie plutôt comme une thérapeutique, et une thérapeutique notamment politique. Dans la préface de L'Esprit des Lois, hein, vous avez cité Montesquieu dit une phrase qui est très très belle, qui consiste à dire que la philosophie sert avant tout à se guérir de ses préjugés. Ce mot de guérison est intéressant. C'est comme s'il y avait effectivement, dans le philosophe, une forme de thérapeute. Et c'est le modèle qui sera celui de l'Aufklärer, celui qui veut éclairer les esprits, ce qui veut, disons, leur apprendre à se servir de leur entendement et se libérer justement des tutelles, qu'elles soient religieuses, civiles, politiques, voilà, et qui en réalité donne aux individus les moyens de se libérer. Et c'est ça que je trouve magnifique, pas forcément dangereux, mais magnifique, et dans la philosophie.
L'esprit des lois, dont vous, j'ai lu quelque part, vous disiez que c'était votre, ça avait été votre boussole.
C'est mon livre de chevet, ça l'est toujours, et je pense que ça le restera.
Bien. Alors, la liberté, puisqu'on va, on va parler de ça, c'est à la fois une abstraction, c'est un concept, une théorie, mais ça a aussi des implications très concrètes. Je voudrais vous demander, à vous les élèves, si des penseurs comme Rousseau, comme La Boétie, ça vous parle, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose pour vous, ou est-ce que vous trouvez ça poussiéreux, que ça appartient, disons, à un passé qui n'a rien à voir avec votre vie? Mathis, au hasard, c'est sur toi que ça tombe. Est-ce que tu acceptes que je te tutoie? Parce que spontanément, oui, j'ai envie de vous tutoyer. Donc voilà, vas-y, à toi Mathis.
Pour moi, oui, La Boétie et Rousseau, c'est un peu plus poussiéreux. C'est-à-dire que dans le cadre d'aujourd'hui, pour moi, ça tient plus autant qu'avant. Je serais beaucoup plus enclin à écouter...
Un philosophe contemporain, oui, sur le sujet
Beaucoup plus contemporain, plus Marx et Bourdieu que La Boétie et Rousseau.
Camille?
Pour moi, c'est aussi important de savoir étudier des textes contemporains et des textes plus anciens.
Ouais.
Maintenant, il faut juste, je pense, savoir adapter et avoir conscience que c'est une autre époque, une autre société et qu'il y avait d'autres normes. Enfin, c'est juste une question d'adaptation, peut-être.
Qu'est-ce que vous en pensez, Céline Spector?
Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont intemporelles, comme on dit subspecies aeternitatis dans la philosophie, qui valaient déjà sous Platon, qui sont encore vraies aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont tributaires du contexte. Et effectivement, quand on fait de la philosophie politique, il y a des choses qui sont tributaires du contexte. Rousseau s'exprimait avant la Révolution française. Tocqueville après. Il n'a pas la même vision de la démocratie. Le sens même du concept de démocratie a changé entre la philosophie ancienne et la philosophie moderne. En fait, pendant très longtemps, la démocratie était critiquée, stigmatisée, et c'est assez récemment que l'on a voulu tenter de la réhabiliter en lui donnant un autre sens, en l'associant éventuellement à la représentation plutôt qu'à la démocratie directe, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment se demander quel genre de philosophie on veut pratiquer et à chaque fois se poser la question de savoir ce qui peut ou non être actualisé dans la philosophie.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors? Parce que alors tu t'es levé, est-ce que je peux te demander ton prénom s'il te plaît?
Je m'appelle Samuel.
Samuel, vas-y.
Donc moi je suis d'accord avec ce que dit Mathis dans le sens où le fait que l'époque, on n'est plus dans la même époque que La Boétie ou Rousseau, et le fait qu'ils aient marqué leur histoire par rapport aux oppressions qu'ils avaient, La Boétie avec la monarchie absolue, mais aussi ce que dit Aurélien, c'est-à-dire que c'est quand même des choses, de la philosophie fondamentale, ce qu'il raconte, et les Lumières avec Rousseau, qui nous permettent d'avoir une vision quand même plus générale de ce qu'ils voyaient à l'époque en termes de philosophie.
C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelque chose de plus universel, il est en surplomb, Rousseau,
c'est comme ça que je le perçois.
Ça vous, Jean-Victor Grasset?
Oui, en fait, cette question du rapport au texte et aux textes anciens, je pense qu'elle est très importante. Et nous, en tant que professeurs de philosophie, on se la pose beaucoup quand on enseigne aux élèves de terminale qui, de fait, sont très loin de ces textes-là. Et je pense que l'enjeu, c'est de réussir à leur donner vie à ces textes. Et une des manières de le faire, c'est de rappeler le contexte historique dans lequel ils ont été écrits. Et par exemple, le discours de la servitude volontaire sur lequel on a travaillé en début de semaine avec les élèves, donc qui a été publié en 1574, prendre le temps de rappeler que La Boétie, il a écrit ce texte dans une forme d'urgence qui était une réaction à un contexte politique très particulier, qui était la fin du règne de François Ier, avec une hausse de la fiscalité et des violences dans la
répression. Hausse de la fiscalité, il y a quelques relents actuels. Hein.
Je pense que c'est ça l'intérêt, c'est pas de prendre ces textes comme on prend un manuel avec en tournant les pages les uns après les autres, mais plutôt les remettre dans leur contexte historique pour en faire sentir l'actualité.
D'où l'importance probablement de faire, comme on dit, conduite accompagnée, d'avoir une lecture accompagnée. C'est l'inspecteur, vous, qui dites que l'esprit des lois est votre livre de chevet. Avant d'en arriver là, il faut quand même avoir eu quelques guides, non?
Quelques guides, sans doute. Mais pour revenir un instant à l'action du contexte, je pense que c'est très important. Le contexte ne nous permet pas de tout comprendre d'un texte. Il est indispensable, mais il ne faut pas réduire le texte à son contexte, ça c'est quelque chose de fondamental. Je vais juste vous donner un exemple sur les textes qui vont nous intéresser en philosophie politique. Sur l'action de l'esclavage. Quand on parle d'esclavage aujourd'hui, on pense spontanément à l'esclavage colonial, à la traite notamment, qui a eu lieu dans le cadre du commerce triangulaire, et dont l'Europe a été largement responsable. Or, très étrangement, quand on lit les textes du XVIIe et du XVIIIe siècle, et notamment ceux de Locke, ou ceux de Rousseau, on s'aperçoit que eux, lorsqu'ils parlent d'esclavage, c'est pas avant tout de la traite dont ils parlent, ou même de l'esclavage colonial. Ils parlent avant tout de l'esclavage des sujets de la couronne britannique. Hein, et Locke est surtout inquiet de voir qu'il y a une forme d'oppression liée à la monarchie absolue en Angleterre ou en Écosse. Et Rousseau, curieusement, pourtant, l'homme est né libre, partout il est dans les fers, on imagine des chaînes, mais en réalité, il pense avant tout aux paysans, à toute la, aux masses laborieuses qui sont vraiment opprimées, plus qu'à l'action de l'esclavage colonial, dont Montesquieu, au demeurant, parle beaucoup plus. Voilà, c'est quelque chose que je voudrais dire pour pas se dire... Parce que parfois, les gens disent, oui, il y avait un grand développement de l'esclavage colonial à l'époque, donc quand ils parlent d'esclavage, ils parlent de ça. Pas du tout. Et donc, je crois qu'il faut garder aussi une liberté par rapport au contexte.
Masterclass dans l'heure philo, c'est parti, donc en compagnie des élèves de Terminal 3 du nouveau lycée de Vincennes.
Mon bel ami, c'est ainsi. Mon bel ami, c'est ainsi. Mon bel ami, c'est ainsi. Ainsi va la vie. Comme un livre qu'on relit, au son de ta cora, à l'histoire de ta vie. Je me relis à toi partout, pourtant parti. Tout mané. Je relis ton histoire loin d'être finie, à tes arpèges virtuos sur tes cordes infinies.
Mathieu Chédid et Fatouma Diawara.
Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, décrétée par l'Assemblée nationale le 26 août 1789, de renommée, on peut le dire, internationale, dont la France peut s'enorgueillir. Jean-Victor Gresset, comment ça fait donc partie, ça, cette déclaration du corpus de textes qui sont proposés aux élèves de terminale pour se préparer au bac philo qui les attend. Comment est-ce que vous l'avez abordé, vous, en cours?
Alors, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est... une bonne manière de commencer la réflexion sur la liberté, puisque c'est un texte que les élèves ont déjà dans l'oreille, quelque part, ils l'ont déjà entendu, et de pouvoir montrer à quel point la liberté est omniprésente dans cette déclaration, et comment est-ce qu'elle est amenée, cette liberté, comme un droit naturel et imprescriptible, ça permet d'ensuite lancer assez vite la réflexion avec les élèves.
Céline Spector, ça fait partie, on va dire, des fondations, presque des fondements de la philosophie française et de notre façon d'envisager la vie sociale et politique dans notre pays.
Absolument, c'est un texte qui a vocation universelle, même si aujourd'hui on discute beaucoup hein, de la valeur de cet universalisme républicain. Bon, c'est une question complexe et controversée. Je voudrais juste revenir sur l'idée de droit naturel, qui est vraiment au cœur de cette déclaration. Pourquoi est-ce que la liberté serait un droit naturel, au même titre que la propriété, par exemple? C'est une question en fait assez délicate, et elle vient de plusieurs textes philosophiques fondamentaux, notamment de Locke, mais aussi de Montesquieu et de Rousseau. Et c'est l'idée que la liberté est inaliénable. Donc il y a une forme d'inaliénabilité de la liberté, même si on voulait vendre notre liberté, on ne le pourrait pas. Et donc il y a toute cette séquence assez incroyable entre Locke, Montesquieu et Rousseau qui dit en fait qu'un esclave ne peut pas se vendre à un maître et qu'un peuple ne peut pas se vendre à un roi. Voilà, c'est quelque chose de fondamental, même pour les penseurs qui ne tiennent pas à l'idée métaphysique du droit naturel, ils se disent qu'en réalité on ne peut pas avoir de servitude volontaire, pour reprendre la formule de la Boétie. Je crois que c'est une idée très importante, même s'il y a des tensions philosophique au cœur de la déclaration entre les théoriciens du droit naturel, qu'on appelle les justes naturalistes, et théoriciens qui pensent que la liberté ne peut être fondée que conventionnellement, c'est-à-dire sur des lois. Et en réalité, Rousseau, c'est un penseur qui, quoi qu'il pense qu'il existe une liberté naturelle de l'homme, tous les hommes sont naturellement libres, pense aussi qu'en société, il faut des lois, des conventions pour fonder la liberté politique et civile. Voilà, et donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. On peut aussi se demander, bien sûr, que fait cette liste des droits, pourquoi la liberté devient les libertés. Et pourquoi ces quatre droits, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression? Et on s'est beaucoup interrogé notamment sur le statut de la propriété. Est-ce un droit naturel comme les autres? Pourquoi est-il si important dans cette séquence? C'est évidemment la critique de Marx, notamment dans la question juive, puisque pour lui, la liberté de la déclaration est une liberté formelle et pas une liberté réelle, et qu'au fond, c'est la propriété qui est l'archétype de tous les droits de l'homme. En fait, ce sont les droits de l'individu séparé, isolé de sa communauté, disons-le, du bourgeois.
Alors, comment est-ce que vous l'avez reçue, vous, cette déclaration? Vous en avez pris connaissance, j'imagine. C'est la première fois que vous l'avez lue, non, Camille?
On l'avait déjà un petit peu étudiée, par exemple, quand on a commencé la Révolution française en quatrième, enfin, même l'année dernière.
D'accord.
Mais peut-être pas analysée comme on l'a fait en philo cette année. Mais on l'avait déjà vu, en tout cas.
Ça vous paraît être un texte fondamental? Un texte dont vous comprenez l'universalité, Aurélien?
Moi, ce que j'ai le plus découvert grâce au cours de philosophie au sujet de la liberté, c'est qu'en fait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est très critiquée et pas forcément universelle comme on aurait pu le croire jusqu'à la terminale. On nous a beaucoup parlé du fait qu'elle était super, qu'elle changeait beaucoup de choses, etc. Et cette année, on a beaucoup plus découvert les aspects plus négatifs, comme on l'a vu avec Marx, comme on l'a vu avec plein d'autres philosophes qu'on a pu étudier. Et j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir cet angle.
Aurèle, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense que la DDHC est un texte fondamental et extrêmement intéressant pour son époque. Je ne sais pas s'il y a un quelconque intérêt ou à s'en orgueillir aujourd'hui en tant que Français.
Pourquoi tu dis ça?
Je pense que c'est un outil politique de glorifier la grande idée française de la DDHC. Et je pense qu'en fait, la DDHC n'est pas le résultat d'une grande âme nationale française, mais plutôt d'événements bien réels et bien historiques qui sont arrivés, des événements sociaux très grands. Et c'est là où on peut étudier la liberté de la DDHC de manière différente, c'est que elle a précédé en fait un événement, elle a annoncé un événement social au 19e siècle avec la révolution industrielle et avec l'arrivée du capitalisme. Je pense que c'est là où le contexte est intéressant et c'est là où j'ai un peu de mal à y voir une grande âme de liberté universelle comme on l'apprend à l'école, comme l'a dit Aurélien. Je trouve ça intéressant qu'on n'apprenne pas la critique de la DDHC avant la terminale.
Tu veux dire qu'il y a une récupération en quelque sorte, c'est un peu ça ?
Je pense qu'il y a complètement une récupération et il y a une fierté. Je pense que l'État français aujourd'hui a beaucoup envie de resserrer son peuple et de bien montrer qu'il représente tout le monde et c'est pour ça qu'il utilise la DDHC. Dans son contexte, je pense qu'en 1793, c'est un progrès assez phénoménal et que ça a énormément fait progresser plein de choses pour la vie de tous les Français. Pour aujourd'hui, je pense que même pour revenir à ce qu'il y avait avant sur Rousseau, etc., je pense que les formes de domination qu'on avait à l'époque n'en sont plus les mêmes, que c'est pas la même liberté qu'on doit se battre pour... C'est pas pour cette liberté qu'on doit se battre aujourd'hui, même si, bien sûr, on peut faire des analogies quand on est oppressé par un roi ou par un dictateur ou par un patron. Il y a une forme d'idéalisme que j'aime pas trop dans la DDHC, en fait.
Bah dites-moi, ils sont du niveau, hein, vos élèves, Jean-Victor Graisset.
Non, mais c'est très intéressant ce que dit Aurèle sur le fait que, précisément, la philosophie en terminale, c'est un moment où on peut reprendre ces textes que l'on entend depuis très longtemps et porter un regard différent sur eux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la poubelle, et je pense que c'est l'inspecteur...
Je ne crois pas qu'elle la mette à la poubelle.
Voilà, mais en tout cas, d'ouvrir un petit peu des perspectives nouvelles sur ces textes, et surtout d'inviter les élèves à une forme d'esprit critique et de nuance, d'autant plus dans une société où les réseaux sociaux invitent à une forme de polarisation du débat et on n'arrive plus vraiment à discuter ces textes-là.
Moi, je trouve quand même que là, il y a eu une analyse politique extrêmement, extrêmement fine et suffisamment distanciée, en fait, Céline Spector. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je pense qu'il faut toujours distinguer un texte et ses usages. Et donc, du point de vue de ce texte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de contingences qui ont présidé à son élaboration. Il y a eu de très nombreux manuscrits de déclarations. Condorcet lui-même en a rédigé 3 qui ne sont même pas encore publiés. Donc, il faut être attentif à toute cette contingence. Mais ce qui est très important, c'est ce qu'on voit ici, le préambule et le texte qui nous dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ça veut dire que la tyrannie est illégitime. Et donc, en fait, ce texte, il faut le prendre comme un brûlot. Il faut bien se souvenir qu'il s'agit d'une arme de guerre contre la monarchie absolue, contre les abus de pouvoir, contre l'arbitraire. Et donc, il faut surtout pas l'affadir et considérer, comme on le fait un peu aujourd'hui, que ça serait un texte conservateur qui serait là au service d'une idéologie plus ou moins consensuelle. C'est un texte qui n'est pas du tout consensuel, qui est en réalité extrêmement décapant. Et il faut là aussi se souvenir que il a été proclamé, non pas comme aux États-Unis en 1776, disons, où c'est Dieu qui octroie les droits naturels, hein, dans le texte français, c'est pas Dieu qui octroie les droits, c'est au fond la nature elle-même, et c'est seulement, comme dit le texte du préambule, sous les auspices de l'être suprême, c'est-à-dire, en fait, on a mis quand même la religion à distance. Il faut bien voir qu'en 1789, c'est extrêmement subversif.
Billy,
quand on est né, le DDHC et la Constitution sont déjà établis. Donc, c'est comme si c'était des bases que tout le monde doit suivre. Et je pense que le fait que on développe cet esprit critique, c'est très important, parce que si on suit ces bases juste sans penser, bah, comme on a vu avec la servitude volontaire, un des étapes, c'est l'éducation pour devenir un tyran. Et donc, le fait d'avoir cet esprit critique nous permet de peut-être voir les deux côtés de l'argument.
Comment est-ce que ça se construit, un esprit critique ? Comment est-ce que vous avez l'impression d'avancer grâce à un professeur, grâce à des textes, grâce à une... Parce que penser par soi-même, c'est pas si facile que ça. Mathis ?
Penser par soi-même, il y a quand même énormément de choses différentes qu'il faut avoir. Parce que déjà, oui, je pense que avoir un professeur, c'est déjà utile pour réussir à avoir, j'ai envie de dire, une base de vérité. J'ai envie de dire, oui. Mais aussi derrière, pour moi, pour construire un esprit critique, il faut réussir à mettre son avis face aux autres, à souvent aller débattre avec les gens et pas juste se renfermer dans une bulle où on est avec des gens qui ont la même opinion que nous. Parce que c'est ça qui fait que derrière, on n'arrive plus à se remettre en question et qu'on... Oui, qu'on perd notre esprit critique. Justement.
C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, il y a beaucoup de bulles hein, en ce moment, on a l'impression. Anton.
La philosophie, ça aide beaucoup à développer l'esprit critique parce que tout d'abord, on a cette réflexion qui est menée au cœur des cours de philosophie dans la classe ou même ici. Et puis surtout, on va acquérir des connaissances et ces connaissances permettront d'ouvrir nos opinions et de pouvoir finalement aller... regarder ce qu'on n'aurait pas regardé sans avoir ce cours de philosophie.
Aurélien.
Moi, justement, pour revenir sur ça, je pense qu'en fait, c'est triste, mais durant une certaine période de notre vie, toutes ces pensées-là, toute cette philosophie, elle est assez mise de côté. Je trouve que quand on est enfant, on a pas mal de questions super intéressantes. On essaye de comprendre le fonctionnement du monde entier et on est vite rabâché par les adultes, par beaucoup de gens. Et par le sort de moule social, on va dire. Et au final, on perd une partie de l'esprit critique qu'on aurait pu obtenir en étant enfant. Donc je trouve ça assez dommage. Parce qu'en fait, moi je pense que l'esprit critique, ça se développe juste en écoutant une diversité d'opinions, en réfléchissant. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire à tout âge. Enfin, à partir du moment où on s'est parlé et écouté.
Alors, revenons-en à notre cher Jean-Jacques, extrait du Contrat social donc, de Rousseau. On va l'écouter. Merci à Franck Olivard de nous avoir prêté sa voix.
Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté.
Liberté naturelle, liberté civile. Monsieur le professeur Gresset, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Comment l'avez-vous fait déjà en classe, puisque vous avez quand même déjà sacrément bossé depuis début septembre?
Alors, le cours sur la liberté, il était précédé d'un autre cours sur le bonheur. Et dans ce cours sur le bonheur, on a travaillé sur le Gorgias de Platon. Et dans le Gorgias de Platon, apparaît une figure très intéressante qui est la figure de Calliclès, qui s'oppose à Socrate. Et Calliclès incarne véritablement une certaine conception de la liberté qui est la capacité à satisfaire absolument tous ses désirs sans limite, une forme de licence qui serait naturelle, et il va valoriser un état naturel de l'homme dans lequel il est vraiment libre de faire absolument ce qu'il désire. Et Socrate va opposer à cette liberté une autre liberté qu'il appelle pas encore liberté morale, mais qu'on retrouve dans ce texte de Rousseau. Et donc quand on aborde ce texte de Rousseau dans le cours sur la liberté, les élèves ont déjà en tête ce débat entre Socrate et Calliclès, et on le retrouve en fait en filigrane dans ce passage du Contrat social, et c'est à partir de là donc que naît la discussion.
On peut d'ailleurs se demander, et faire le pont entre liberté et bonheur, est-ce que la liberté est nécessaire au bonheur? Est-ce qu'on est davantage heureux quand on est libre? Ce sont évidemment des questions que vous vous êtes posées. Mathis.
Pour moi, ça peut être vrai dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on peut être heureux sans être libre, et on peut... Mais pour moi, c'est quand même un bonheur bien plus grand et bien plus réel d'être heureux parce qu'on est libre. La réflexion de la grotte avec le fait de...
La grotte, c'est Platon, non? C'est ça?
Ça ressemble. Mmh.
Avec cette ambivalence de est-ce qu'il faut rester dans la grotte sans savoir ce qu'on rate parce qu'on est heureux dans la grotte, ou est-ce qu'il faut sortir pour réellement trouver le bonheur en dehors?
Céline Spector, vous êtes d'accord?
Alors oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le texte de Rousseau?
Autant que vous voulez.
M'y autoriser, c'est gentil.
C'est votre chérie, on le sait, avec voilà. Montesquieu, ils occupent votre cœur.
Voilà, et parce qu'en fait, ce texte, il est quand même fascinant. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit apparaître ici, pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, l'idée que la liberté se définit comme, alors le mot y est pas encore, mais comme autonomie, le fait de se donner à soi-même ses lois. Hein, donc ça, c'est plutôt ici, dans ce texte, la liberté morale, mais en fait, ça peut aussi définir la liberté politique. Et c'est très différent de bien d'autres définitions possibles hein, de la liberté, par exemple, chez Hobbes, dans le Léviathan, la liberté civile, politique, c'est tout simplement le fait de pouvoir agir dans le silence des lois. En fait, c'est un résidu de la liberté naturelle lorsque le souverain ne s'est pas exprimé, n'a pas parlé, hein, et donc, voilà, il nous reste un peu de liberté, et on peut profiter de cette liberté dans le domaine essentiellement économique et domestique. En fait, Hobbes, c'est un grand critique hein, des théoriciens républicains. Et Montesquieu de même, il nous dit la liberté, c'est pas du tout le fait d'exercer sa souveraineté de manière, disons, collective, c'est en réalité le fait de se sentir en sécurité. C'est l'opinion de sa sûreté. C'est le fait de ne pas se sentir la proie de l'arbitraire du pouvoir. Le fait de pouvoir regarder, comme on dirait aujourd'hui, les policiers dans les yeux, parce qu'en réalité, on ne craint pas le pouvoir politique et on ne se sent pas opprimé par l'État. Et ça, c'est une définition fondamentale de Montesquieu. Et Rousseau rompt avec ces deux auteurs. Il rompt avec Hobbes, il rompt avec Montesquieu. Et il nous dit non, la liberté s'inscrit dans le cadre d'une communauté où la volonté générale est la source des lois. Et il ne peut y avoir de liberté que dans un État républicain où le peuple tout entier fait la loi.
Allez-y, il y en a deux. Alors, vas-y, toi.
Alors moi, je trouve ça très intéressant, cette comparaison entre les différents auteurs et surtout les types de liberté politique. Ce que notamment, on peut aller regarder, c'est De la liberté des anciens et celle des modernes de Benjamin Constant. Donc ça va clairement opposer cette liberté qui finalement est plus, où on est plus impliqué dans le système politique. Donc on a vraiment une voix dans la liberté. Et le système moderne que défend Benjamin Constant, où finalement on déléguerait notre part de liberté à un autre individu qui serait censé faire le bien avec dans notre contexte actuel. Et entre ces différents auteurs, c'est quand même assez central.
Tout le monde ne sait pas forcément qui est Benjamin Constant parmi les auditeurs qui nous écoutent là en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication?
Oui, alors en deux mots, Benjamin Constant, c'est un auteur qui a travaillé avec Germaine de Staël, qui a été un républicain sous la Révolution française et qui est devenu, comme on dit, libéral après les dérives de la Terreur. Et notamment, hein, l'un des points dans le discours que vous mentionnez, hein, qui est un discours à l'Athénée royale de Paris de 1819, où il compare la liberté des anciens et la liberté des modernes. Ce qui est fascinant, c'est que précisément, il s'inspire de Montesquieu. Hein, on pourrait dire que c'est son principal disciple. Hein, et en revanche, il est très critique de Rousseau parce que Rousseau a assimilé la liberté des anciens et celle des modernes. Il a cru qu'on pourrait revenir. Et ses héritiers, après lui, notamment Robespierre et le comité de salut public, les Jacobins sous la Révolution, ils ont cru qu'on pourrait restaurer une liberté ancienne, c'est-à-dire finalement la souveraineté directe du peuple. Alors que ce dont nous pouvons profiter chez les modernes, c'est simplement de la jouissance individuelle de nos droits.
Alexandre.
Quand Rousseau il parle dans son texte, il parle de trois types de liberté. D'une liberté morale, d'une liberté naturelle et d'une liberté civile. Et je pense que c'est intéressant de nos jours d'en parler parce qu'on critique beaucoup notre régime actuel qui est une démocratie représentative. Et on la critique beaucoup et certains voudraient la changer en démocratie parlementaire. Parce que, soi-disant, il y aurait une meilleure représentation du peuple. Donc je trouve ça intéressant de voir les différentes libertés qu'il explore, pour voir qu'au fond, la liberté morale, elle prime un petit peu sur toutes les autres libertés si on veut se sentir libre personnellement. La liberté morale qui parle, c'est se fier à ses idées. À partir du moment qu'on se fie à ses idées, on va être en accord avec soi-même. Et donc voilà, il y aura cet état un petit peu de béatitude qu'on aura. Et on peut un petit peu faire une sorte de parallèle, je pense, avec le Parlement. Et voilà. Enfin, le régime, pardon.
Aurélien ?
Moi, je dirais qu'il y a quelque chose à tirer de tous ces enseignements. Je pense, par exemple, que la fin de vie de Rousseau, elle est très intéressante pour comprendre ce qu'est la liberté et qu'est-ce qu'on peut en penser. Parce qu'en fait, cette idée de se placer tel un ermite du monde, à distance de tout ça, profitant de sa liberté loin du monde, ça montre aussi l'importance des libertés naturelles, je dirais, des libertés qui ne sont pas forcément limitées par un pouvoir politique dans notre vie. Parce que finalement, Rousseau, quand il est tout seul, bah, il fait vraiment ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et moi, pour moi, c'est ça la liberté, c'est de faire ce que l'on veut, aller le plus loin possible dans ce que l'on veut et ne pas se faire limiter par les lois. Moi, je pense que les lois, elles sont plutôt là pour essayer de nous accompagner sur ce chemin et essayer de nous permettre de faire ce qu'on veut.
Mais la liberté propre à chacun, elle s'arrête au moins là où commence celle de l'autre, non ?
C'est ce qu'on pourrait, on pourrait se dire ça, oui. Mais du coup, l'objectif, ce serait que tout le monde puisse aller le plus loin possible sans, sans non plus empiéter sur la liberté des autres.
Céline Spector, un mot.
Oui, ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Rousseau, à savoir liberté, égalité. En fait, on ne peut pas défendre la liberté si on n'a pas une certaine forme d'égalité, qui n'est pas seulement une égalité de droit, mais également une forme d'égalité matérielle qui ne peut pas être parfaite. Mais Rousseau insiste beaucoup là-dessus. Si certains peuvent acheter d'autres personnes, il n'y a plus de liberté. Et donc, il faut bien comprendre que notre devise, liberté, égalité, fraternité, ça ne décrit pas un état de fait. Hein, au contraire, c'est un idéal auquel il faut aspirer, mais pour lequel il faut toujours se battre. Et comme dirait Rousseau, c'est parce que la force des choses conduit toujours à la reconduction des inégalités que la force des lois doit permettre de restaurer l'égalité.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo que vous écoutez. Et aujourd'hui, c'est, vous l'aurez compris, une masterclass. C'était Lola Young, Not Like That, pas comme ça, anymore. Il y a une question que nous n'avons pas encore abordée, qui est personnelle, qui est propre à chacun d'entre vous ici dans ce studio. C'est comment vous vivez la liberté tous les jours? Est-ce que vous avez l'impression d'être des jeunes filles, des jeunes gens libres? Est-ce que parfois elle est entravée, cette liberté, et ça vous embête bien? À toi, Rokhaya.
Moi, je pense que la liberté, ça dépend un peu de la personne et de l'environnement surtout dont la personne vient. Il y a des parents qui trouvent que si on est plus strict envers un enfant, ça le rendrait plus libre. Mais personnellement, je trouve que ça a littéralement aucun sens parce que, enfin, comment le fait que tu ne laisses pas ton enfant être libre, s'exprimer, avoir sa propre opinion, le rendre plus libre? Non, ça le rend pas plus libre, ça le rend plus libre par rapport à ton image de la liberté. La liberté, ça dépend un peu des classes d'une certaine personne. Par exemple, on va dire que, je sais pas si c'est un très bon exemple, mais une personne sera moins libre, car par exemple, elle travaille plus, elle a plus de choses à faire. Par exemple, une mère célibataire qui doit travailler deux travails différents pour pouvoir nourrir ses enfants, bah, elle n'a pas la même liberté que, je sais pas, quelqu'un qui a un travail de bureau, qui gagne bien sa vie. Bah, là, il peut profiter avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille. Alors que la mère célibataire, bah, sûrement pas. C'est là où je vois que c'est vraiment assez différent. La liberté à chacun, enfin, ça diffère de chaque personne.
Et c'est propre à un contexte et un environnement.
Oui,
en fait.
Voilà.
Qui d'autre ?
Moi, je trouve qu'en soi, dans notre pays, on a quand même une base de liberté pour chacun. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas, pour moi, plus on grandit, plus on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes libertés que les autres. C'est-à-dire que pour revenir sur ce que Céline Spector a dit tout à l'heure, sur le fait de pouvoir regarder la police dans les yeux et pas avoir peur, bah faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui peut vraiment regarder la police en face et dire « je n'ai pas peur de toi ». Parce que dans la France d'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'inégalités à cause de cette police. Et en soi, ce n'est pas le seul problème qu'il y a avec la liberté. Moi, je vais un peu revenir sur ce que Rocaille a dit sur l'origine sociale. Et en soi, il y a ça qui peut entraver notre liberté, dans le sens où si on vient d'un milieu un peu plus populaire, dès qu'on va commencer à, j'ai envie de dire, à monter à la fois hiérarchiquement et socialement dans le monde du travail, plus on va être remis en question à cause de notre origine. Ça peut être à cause de, comment dire, d'une origine populaire, mais ça peut aussi être à cause d'une ethnicité. On n'a pas exactement la même liberté, même juste quand on parle. C'est-à-dire que...
Ah ben, quand même, il y a une liberté d'expression.
Oui, il y a une liberté d'expression. Mais il faut se rendre compte que selon qui on est, on peut être... comment dire ? En fait, le regard des autres a énormément d'influence sur la liberté qu'on peut avoir. Et le problème, c'est que justement, selon qui on est, ce qu'on dit peut être pris totalement différemment. Par exemple, le fait d'être d'une ethnicité, par exemple, de maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, il y a quelque part la nationalité française qui va toujours être remise en question. Et du coup, faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on va dire, parce que derrière, après, on va dire « Ah, lui, regardez, il veut pas être français, lui... » Comment dire, lui, il est pas comme nous. Ah, c'est les trois I, islam, insécurité, immigration. Merci. Chacun a une liberté différente selon d'où il vient.
C'est l'inspecteur. Vous prenez des notes hein, quand il parle. Quand
ça. Je prends votre note, comme on dit. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est voilà, qu'est-ce qu'on doit sacrifier pour être libre ? Parce qu'en fait, la liberté naturelle, c'est une liberté illimitée à tout ce qu'on peut atteindre. Et en réalité, cette liberté, on doit l'abandonner pour vivre en société. Il faut sacrifier, il faut renoncer à certaines choses. C'est ça l'idée même du contrat social. Et donc, une fois qu'on est en société, eh ben, il y a cette grande différence de savoir si on vit dans une dictature ou si on vit dans une démocratie. Alors, nos démocraties, elles sont imparfaites et on redoute toujours qu'elles portent atteinte aux libertés publiques, et c'est le cas parfois, parce qu'il y a des menaces de guerre, il y a des menaces de terrorisme, et puis les libertés, il faut toujours les défendre, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut les conquérir et les reconquérir. Mais ce qui me paraît très important, c'est de ne pas vouloir tout confondre. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons la chance et le privilège de vivre en démocratie, et comme disait Montesquieu, hein, le grand mal politique par excellence, c'est le despotisme, c'est la tyrannie, c'est ce que nous on appelle la dictature ou l'autocratie. Et ça, de ce point de vue-là, ça veut dire, comme disait Montesquieu, que malgré leur amour de la liberté, malgré la haine de la violence, le despotisme, c'est le pays qui gouverne plus des trois quarts de la Terre. Il le disait en 1748 dans l'Esprit des Lois, c'est encore vrai aujourd'hui.
Ce n'est point la liqueur qui est corrompue, c'est le vase. C'est ça qu'il a écrit ?
Alors oui, en fait, c'était une référence à Épicure, mais oui, c'est quelque chose d'important, parce que quand on critique la démocratie représentative, et il faut le faire à bon escient, il ne faut pas oublier qu'on a la chance, précisément, de pouvoir la critiquer.
Koudjidji, alors.
Moi, je trouve personnellement qu'on a vraiment de la chance de vivre dans un pays où on est genre franchement libre de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, d'aimer qui on veut, etc. Même si, bon, comme Mathis, il a très bien dit, bah, c'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'il veut. Du coup, c'est bien dommage, etc. Parce qu'il y a une sorte de grande majorité dans le pays qui n'a pas le droit de faire ce qu'il veut comparé à d'autres. Et du coup, bah, voilà, je trouve pas qu'on est tous libres de la même manière. Enfin, ils prétendent qu'on est libre de la même manière alors que absolument pas.
Amine.
On parle beaucoup de la société, des libertés qu'on nous donne, mais je trouve qu'on n'a pas parlé de l'individu et des libertés qu'on se donne soi-même. Je sais que j'en connais autour de moi qui, par exemple, n'ont pas confiance en eux ou qui ne se lancent pas dans des projets parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver ou que ce n'est pas possible. Au final, ils se brident eux-mêmes. Je trouve que c'est important quand même de le préciser. De ce sens de liberté qu'on nous donne, enfin qu'on se donne soi-même, au final.
Voilà. Billy ?
Ah oui, pour revenir sur la liberté de chacun dans la vie quotidienne, personnellement, je pense pas à la liberté quand je vis ma vie. Chaque jour, je prends le métro, je prends le bus pour aller à l'école, mais je pense pas que est-ce que ça serait différent si j'étais pas libre. Et je crois que c'est aussi important ça, parce que le fait qu'on a cette liberté, mais on ne questionne pas, bah, on sait pas qu'est-ce qui va passer si on m'enlève cette liberté. Et je crois que c'est aussi important qu'on parle de ce sujet-là en terminale, parce que c'est bientôt où on va entrer dans la société, où on va devoir trouver un travail si on travaille dans un bureau ou un métier qui paye plus. Et donc,
vous allez aussi devoir voter.
Oui, exactement.
À un moment donné.
Donc c'est vraiment où on va devoir s'interroger du fait que est-ce qu'on est vraiment libre. Donc je pense que c'est aussi très important.
Camille.
Depuis tout à l'heure, on parle donc de l'état de nature et donc la liberté naturelle et l'état civil avec la liberté
civile.
Ce qui caractérise l'état de nature, c'est que on n'est pas dans un lieu sûr. C'est un petit peu une question de possession. Donc, on n'a pas de propriété. En fait, c'est très incertain. Et on n'a pas de sûreté qui est garantie comparée à l'état civil qui, elle, garantit une propriété qui acte un petit peu tout ça. Et en fait, c'est comme si on remplaçait une forme d'incertitude et d'égoïsme par une autre, en fait. Parce que dans l'état de nature, c'est chacun pour soi. Et dans l'état civil, va y avoir des inégalités sur lesquelles en fait on n'a pas vraiment de pouvoir ou qui sont très difficiles à déconstruire parce que c'est vraiment ancré dans la société.
Alors après Camille, Lucie.
La philosophie, c'est intéressant, ça permet de se questionner, de se poser des questions. On est dans une démocratie, donc on est quand même relativement très libre. La philosophie, ça permet de se poser des questions sur les limites de cette liberté. Moi, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Tocqueville, qui parle de la tyrannie de la majorité. Parce que ça permet de questionner les limites de la démocratie. Est-ce qu'on doit sacrifier pour la liberté dans une démocratie? Est-ce que la majorité, elle est vraiment légitime? Par exemple, il y a des régimes comme en Hongrie, pendant des démocraties libérales, où même si la personne au pouvoir, donc Viktor Orban, il a été élu démocratiquement, pour autant, une fois qu'il y est, il abolit toutes les libertés, enfin, il abolit une bonne partie des libertés, il se fait tout puissant. Même si c'est la majorité qui l'a décidé en exerçant sa liberté, est-ce que c'est vraiment juste pour autant? Est-ce que c'est vraiment libre?
Alors c'est terrible parce que c'est frustrant, c'est un peu comme la sonnerie de la fin d'un cours, mais malheureusement il va falloir qu'on arrête et qu'on se quitte. Un mot peut-être de conclusion à vous Jean-Victor Gresset, puis ensuite à Céline Spector, si vous le voulez bien.
Eh bien je vais donner la parole à la Boétie qui écrit « La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude ». Et je crois que pour moi, ce qui compte vraiment, c'est d'essayer d'éveiller les élèves à sortir de leurs habitudes, à essayer d'interroger, de s'étonner du monde qui les entoure. Et au fond, que ce soit au niveau politique et aussi au niveau de leur vie personnelle, quand ils entrent dans un supermarché ou quand ils sont assis sur les bancs de l'école. Voilà pour moi la liberté.
Céline Spector.
Je voudrais juste dire un mot sur le fait que la liberté est très fragile. La liberté politique, celle dont on bénéficie aujourd'hui, elle est constamment menacée. Et elle est menacée par les risques de guerre, elle est menacée par les risques d'oppression de nos propres gouvernements. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Et ça, je pense que si j'ai une dernière chose à dire, c'est cela. Il faut se battre pour la liberté.
Merci à vous tous. Et l'inspecteur, je rappelle, enfin je ne rappelle pas parce que je ne l'ai pas encore dit, Servitude et Empire, Montesquieu des lettres persanes à l'esprit des lois, c'est chez Vrin. Et puis un autre livre, Émile, deux points, Rousseau et la morale expérimentale. Ce sont donc deux ouvrages que vous signez qui est également publié chez Vrin. Merci à vous Jean-Victor Gresset. Qu'est-ce qu'on leur souhaite là pour le printemps ?
D'être libre.
D'être libre et d'avoir des bonnes notes, justement, qui vous permettront d'avoir une vie libre et de pouvoir choisir ce que vous voudrez faire plus tard dans la vie. Merci en tout cas à vous, les élèves de terminale donc du nouveau lycée de Vincennes. Leur philo, c'est déjà fini et on se quitte, hein, c'est tout ce qu'on a à faire.